Bonjour, chers auditeurs. Nous arrivons à la conclusion de nos émissions intitulées « Face à la crise ». Comme toutes les bonnes choses ont une fin, je laisse la place au pasteur Gilberto Araujo pour la dernière causerie. Et à très bientôt pour de prochaines émissions.
Chers amis, bonsoir à tous. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous souhaiter à tous un bon sabbat. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, on n'a pas tout le temps pour vous expliquer, mais depuis le coucher du soleil aujourd'hui, nous sommes déjà dans les heures du Saint Sabbat, c'est-à-dire dans le temps où Dieu a créé toutes choses, il n'y avait pas une montre, n'est-ce pas, pour montrer minuit et les heures comme nous les voyons aujourd'hui. C'est plutôt Dieu utilisait le soleil. Donc, les journées se comptaient à partir du coucher, d'une journée vers l'autre. Donc, c'est là que le Seigneur a béni, sanctifié et aussi resta pendant les jours du sabbat. Et je vous souhaite donc à tous un bon sabbat dans l'amour de Dieu. Alors, j'aimerais remercier d'abord à Dieu pour cette occasion qu'il m'accorde de venir à chaque soir ici et partager avec vous sa parole. Comme le livre d'Ecclésiaste lui-même, il dit dans le chapitre 3, à partir du verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Et là, il commence à faire une liste des choses, n'est-ce pas, que Dieu nous donne, comme par exemple un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce que nous avons planté. Et aussi, je pourrais dire, il y a un temps pour commencer les choses. Il y a aussi un temps pour achever ce que nous avons commencé. Et aujourd'hui, c'est notre 7e soirée. On a commencé samedi passé. Aujourd'hui, nous sommes à notre 7e soirée. Nous devons donc achever ces séances d'études de la Bible. Et alors, je remercie Dieu pour cela et je remercie aussi la fédération dans la personne du pasteur Jean-Paul qui m'a invité à venir. J'étais largement béni. J'aimerais aussi remercier les pasteurs qui m'ont toujours appuyé ici et ont été à côté de moi. Et aussi, donc, les musiciens, les organisateurs, tous ceux qui ont participé, les gens de la technique, n'est-ce pas, qui nous permettent que les sons et les images puissent arriver ici en bonne qualité. Mais je ne veux pas oublier non plus à vous. Sans vous, je serais tout seul ici. Donc, je vous remercie à vous aussi de venir à chaque soirée m'écouter. Mes chers amis, les membres de l'Église, ceux qui ont prié, qui continuellement prient pour moi, bien comme aussi les familles qui m'ont accueilli et m'ont nourri, la famille des frères Joël, Ninon, Thérèse et Henri, à vous tous, mes remerciements les plus profonds. Alors ce soir, voilà le thème « Solution ou utopie ». Comme vous le savez, depuis un certain temps, l'Église chrétienne a été accusée de créer une certaine utopie vis-à-vis du message et de la promesse du retour de notre Seigneur Jésus-Christ à cette terre pour établir son royaume, pour commencer une nouvelle terre, en disant, ça c'est seulement pour les vieux, les âgés, les ignorants, des gens qui n'ont pas trop à faire, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent s'y trouver quelque chose pour avoir d'espoir dans ce monde, puisqu'ils sont des perdants, puisqu'ils sont des gens qui ne connaissent pas les choses. Alors, comment devons-nous voir cette promesse, comme il est écrit même ici, Jésus revient bientôt. Donc ce soir, nous allons dédier les prochaines 37 minutes pour cela, et donc serrer les ceintures, nous allons, n'est-ce pas, essayer de décoller et commencer notre étude ce soir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler en 1945 sur ces grands jugements de Fabien Von. Alors, le nom ici, je vais essayer, et si j'écrase son nom, il va me pardonner. Slabrendorf, quelque chose comme ça. Il s'agissait d'un jeune homme qui est né en Allemagne pendant la période du nazisme, et alors que, n'est-ce pas, les partis nazistes faisaient des rages en Allemagne, et Hitler commençait comme les Reich, n'est-ce pas, ils le furent. Ce jeune homme arriva à l'université et finit l'université exactement quand la Deuxième Guerre commençait. Et à cause de sa sagesse, son intelligence, la manière comme il avait, n'est-ce pas, toujours été très poussé dans cette affaire, Les nazistes l'ont choisi pour être l'un des avocats, un des légistes de leur parti, alors qu'il n'était pas ou ne voulait pas s'y mêler. Il était un bon chrétien avec des principes très corrects, mais puisqu'il vivait en Allemagne, il donc a accepté d'aider son pays dans ces moments si difficiles. Au fur et à mesure qu'il comprenait où le nazisme amenait l'Allemagne et comment Hitler mettait du feu dans le monde et tuait des millions de juifs, il s'alliait en secret à un mouvement qui maintenant a commencé à faire l'opposition à Hitler et qui surtout ont d'une manière secrète préparé la mort de Hitler. Comme vous le savez, ils ont été découverts, ce mouvement, et voilà que Fabien a été donc emmené en prison. Et en 1945, la cour en Allemagne l'a appelé pour son jugement. Et le juge était là assis et tout le monde savait très bien qu'il n'allait pas s'en sortir. D'ailleurs, même la SS, n'est-ce pas, la police secrète naziste, préparait déjà un groupe de jeunes gens à la sortie du jugement pour les tuer, même pour ne pas attendre qu'ils puissent aller quelque part pour être fusillé. Et voilà, comme on s'attendait, les juges l'ont condamné à la mort. Et alors qu'il sortait au bâtiment, il se trouvait dans les halls principaux. Un avion allié a survolé Berlin, a jeté une bombe exactement sur le bâtiment de la justice. Et cela a éclaté complètement, détruit complètement les bâtiments. Presque tout le monde est mort. Et Fabien se trouve maintenant vivant encore. Et l'histoire nous raconte que la guerre a fini, il s'en sortit. Et voilà sa revanche. En tant que juriste, en tant qu'avocat, quelques temps après, il était invité à devenir un des juges dans la cour, la même qu'il avait condamné à la mort. Et lui, maintenant, il revient pour juger les autres et pour pratiquer la justice là où la justice l'avait condamné. C'était connu donc comme la revanche de Fabien. Mes amis, le Seigneur Dieu aussi a prophétisé un jour de sa revanche, qui s'appelle les jours du Seigneur. Et cela se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 13. Je vais vous inviter à ouvrir à la page 452. Et nous allons lire les versets 6 à 11. Ésaïe, chapitre 13, versets 6 à 11. Et je lis. « Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent. Et tout cœur, l'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tendent comme une femme en travail. » Gardez bien cette langage, cette figure de langage. N'est-ce pas comme une femme qui est prête à accoucher. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur plutôt. Les visages sont enflammés. Voici les jours de l'Éternel arrivent. Jours cruels, jours de colère et d'ardente fureur. Qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs? Car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira de son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Alors, il est connu dans la parole de Dieu, au fur et à mesure que le temps s'approche de l'avènement de Christ, les méchants, les pécheurs, et seront donc des sapins carrés de la justice humaine pour persécuter et causer du mal et du tort à tous ceux qui sont en train d'attendre l'avenir du Christ. Et au moment exact où la justice humaine va faillir, va échouer pour protéger ceux qui, dans leur conscience, ils veulent attendre, ils sont prêts pour le retour du Christ. Voilà que les jours de la revanche arrivera. Et c'est plutôt les méchants qui seront éliminés par le retour du Christ. Et ceux qui sont prêts à son retour l'attendront, ils seront avec lui à jamais. Il faut que vous soyez au courant que la plupart ou un quart du contenu de la parole de Dieu a un contenu prophétique. C'est-à-dire, plus d'un quart de la Bible contient des prophéties. L'Ancien comme le Nouveau Testament referment énormément de prophéties concernant au retour de Jésus, soit dans le Nouveau, soit dans l'Ancien Testament. Nous trouvons plusieurs, presque 2000 prophéties qui parlent sur le retour ou l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il dit là, il y a 1845 références dans l'Ancien Testament et qui se trouvent en 17 des livres de l'Ancien Testament qui mettent l'emphase particulière sur ce thème. C'est-à-dire, c'est un thème réel existant en grande quantité dans la parole de Dieu à propos de son retour, soit dans l'Ancien, soit aussi dans le Nouveau Testament. Et voilà que des 260 chapitres du Nouveau Testament, il y a combien de références à propos de ce sujet? 318. C'est-à-dire, dans une moyenne, à chaque 30 versets du Nouveau Testament, vous trouvez un qui parle sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que Dieu véritablement était en train de nous tromper avec une utopie ou plutôt ce sujet si présent dans la Bible? N'est-ce pas? Comme je vous ai dit, à peu près 2000 prophéties références s'y trouvent ou est véritablement une solution de la part de Dieu au problème du péché. Alors, 23 des 27 livres du Nouveau Testament font exactement allusion à ces événements. Donc, s'il y a un sujet passionnant que la Bible parle et multiplie et fait encore des références sur par rapport le retour, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose qui a été fabriqué dans un coin, mais il y a une quantité abondante de versets qui parlent sur ce sujet. Pour chaque prophétie concernant la première venue de Jésus, il existe 8 qui nous parlent de sa deuxième. Et voici notre évidence aujourd'hui pour croire qu'il ne s'agit pas d'une utopie, mais plutôt d'une réalité, d'une vérité. Pourquoi? Parce que chaque fois que la Bible a parlé sur son premier avènement, il y a 8 fois plus de versets qui parlent sur son deuxième. Alors, est-il venu, oui ou non, la première fois? Nous n'avons pas même besoin de croire à la parole de Dieu. Pas mal des historiens et aussi des gens qui ont écrit des biographies, des choses dans le passé, font mention à l'existence de ce jeune homme, le Christ, et de son travail. C'est un fait historique aujourd'hui. On n'a pas besoin même d'avoir la foi. Parce que c'est la science, c'est l'histoire, ce sont les documents, l'archéologie qui aujourd'hui produisent les preuves en disant qu'il a existé. Alors, si pour chaque verset qui parlait sur son premier avènement, il y a 8 versets, et s'il est venu la première fois, encore 8 fois plus, nous pouvons croire qu'il viendra la deuxième fois. Voilà une évidence à ne pas, n'est-ce pas, se tromper. Et c'est lui-même qui a fait la promesse en Jean 14, 1 à 3, alors qu'il se préparait pour rentrer au ciel, pour retourner à Dieu le Père. À la page 700, il a fait cette belle promesse. Que votre cœur ne se trouble point. C'est comme Christ déjà prévoyait des 1009 les crises, les problèmes à laquelle nous tous faisons face. Il dit, ne se trouble point votre cœur. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et encore, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Cela me plaît beaucoup. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent aller avec Dieu dans la partie où il a promis, dans le paradis. Et heureusement, il y aura de la place pour tous ceux qui veulent y être. Et là, il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, qu'est-ce qu'il a dit? C'est clair là, je reviendrai. Et pourquoi, n'est-ce pas, veut-il revenir? Et voilà, je prendrai avec moi vous, afin que là où je suis, vous y soyez. Aussi, dans son amour incomparable, il a compris qu'il devrait rentrer à la maison de son Père pour préparer une place pour vous et moi. pour que là où il est, nous y soyons aussi. Donc, comme nous l'avons déjà dit, pourquoi veut-il revenir? Parce qu'il vous aime, parce qu'il m'aime. Il m'aime, il vous aime à chacun de vous en spécial. Et là où il est, il veut que nous y soyons aussi. Je dois confesser que d'un côté, mon cœur est divisé aujourd'hui. Je suis content d'être ici parmi vous. Mais je dois aussi confesser qu'une partie de mon cœur se trouve en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que nous aimons vivre avec ceux qui nous aimons. Et Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, il nous aime. Et c'est pour cela qu'il est en train de préparer une place pour que toi et moi, mais une place là où il n'y aura que des avantages pour que nous y soyons ensemble. Alors, quand Christ parlait de son départ, et quand il disait qu'il devrait rentrer pour préparer une place pour que vous et moi, nous y soyons ensemble, les disciples l'ont posé une question. Quand est-ce que reviendras-tu et quel sera le signe de ton avènement? Comment pouvons-nous savoir que nous nous approchons, que ton avènement est proche? Alors, Christ a répondu cela, n'est-ce pas? Et nous voulons lire en Matthieu 24, 3 et 4, ce qu'ils ont dit. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, en répondant, Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ils savaient qu'au fur et à mesure que le temps, la terre, n'est-ce pas, les choses se mûrissaient pour son retour, il y aurait aussi les dangers que nous soyons séduits par des enseignements qui ne sont pas à lui. Et ce soir, nous allons prendre quelques minutes maintenant pour étudier à propos de cela. À propos du discours, n'est-ce pas, prophétique du Christ et des signes. Vous allez trouver ce discours enregistré à Matthieu 24 et 25. Vous le trouvez aussi à Marc 13 et Luc 17 et 21. Alors, je vais faire un résumé de tout ce qui y est écrit. Quels sont les signes, donc, d'un événement inévitable montrant que Jésus est en train de revenir? Numéro 1, il parle sur le faux Christ et faux prophète. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà eu cette expérience de rencontrer un faux Christ. Là, au Brésil, il y a un monsieur qui s'appelle Henri, comme c'est écrit, n'est-ce pas, sur la croix du Christ, Henri. Alors, il dit qu'il est Henri, c'est-à-dire qu'il est le Messie, le Christ. Mais quelle image, quelle figure vraiment bizarre. Moi, je ne parle pas seulement de ce genre. Je sais qu'un autre jour, dans les journaux à Bahia, au Brésil, dans un stade de football, les gens ont dit que Christ est venu là pour rencontrer ces gens-là. Donc, Christ, je ne parle pas de ces apparitions bizarres des gens, n'est-ce pas, avec de longs cheveux qui sont là en train de dire qu'ils sont des Christ. Mais ici aussi, il s'agit de ceux qui parlent au nom du Christ et qui en vérité sont des faux prophètes, qui enseignent au nom du Christ, qui sont des gens religieux qui profitent, n'est-ce pas, du besoin des gens pour les apprendre ce que Christ même les avait dit. Faites attention pour ne pas être séduits. Alors là aussi, il y a des signes qui parlent de guerre et rumeurs de guerre. Avez-vous déjà entendu parler de guerre et rumeurs de guerre? Bien sûr, n'est-ce pas? À chaque jour. Voilà qu'il parle aussi sur la pollution, c'est l'un des signes. Il parle sur la croissance des désastres naturels. Et nous allons montrer tout à l'heure de quoi il s'agit. Tremblement de terre, vous lisez ça dans les chapitres que je vous ai donnés. Je suis en train de faire un résumé de cela. De la violence, vous êtes dans un lieu paradisiaque. Et vous êtes tellement protégé parfois des choses, n'est-ce pas? Parce que si vous étiez en Afrique du Sud, un habitant à Johannesburg, vous alliez comprendre, n'est-ce pas, comment nous devons vivre comme dans des prisons pour nous protéger de la violence. Augmentation de la connaissance. Si je vous présentais aujourd'hui une liste de découvertes des 10 dernières années ou 20 dernières années, vous seriez étonné comment cela se passe. Et aussi, pouvons-nous voir l'un des signes, l'évangélisation globale, c'est-à-dire aujourd'hui, dans le monde entier, les gens sont en train de prêcher, d'enseigner à propos du Christ. Alors, voici quelques images pour nous aider à comprendre cela. En 2004, je crois que nous avons tous entendu, n'est-ce pas, les résultats des 130 000 morts comme résultat d'une tsunami en Asie. Et nous parlons aussi sur l'ouragan Catherine qui a tué et aussi mis sans abri un demi-million de personnes aux États-Unis. Les tremblements de terre en 2005 au Pakistan, 80 000 morts. Le terrorisme devient à la mode aujourd'hui, c'est à la une. Les hommes, n'est-ce pas, partout, si vous prenez un avion, d'ailleurs ma femme, quand elle quittait, voilà, qui, quand elle passait avec ses bagages au rayon X, voilà, on est arrêté aujourd'hui, c'est tout, n'est-ce pas, un tapage pour rentrer dans un avion. Pourquoi? À cause du terrorisme. Des maladies qui, à 50 ans de cela, on n'entendait pas parler. Et aujourd'hui, de plus en plus, à la une, la contamination qui se fait. Tout cela, des signes qui nous révèlent que Jésus revient bientôt. Nous avons déjà entendu les politiciens, les scientifiques se réunissent maintenant, des réunions, des séminaires, des rencontres, des congrès, pour parler sur le réchauffement climatique. Un autre jour, pour notre grand étonnement, ce qui n'était jamais arrivé, voilà le fleuve l'Amazone qui était asséché. Des signes que nous pouvons lier, nous les chrétiens, nous qui croyons à la parole de Dieu, au retour du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, les gens disent, mais pasteur, ces choses-là que vous venez de mentionner, ça existe depuis longtemps, n'est-ce pas? Depuis une centaine, deux centaines, trois centaines d'années. Alors, comment pouvons-nous croire? Si cela était un signe, donc pourquoi Christ n'est pas venu? Donc, je profite pour vous aider à comprendre cela dans le langage prophétique en utilisant 1 Thessaloniciens 5, 2 et 3. Voilà ce qu'il est écrit. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Vous savez que quand le voleur veut visiter une maison, il n'annonce pas davantage, n'est-ce pas? C'est lorsque nous avons été volés que nous découvrons qu'il y était. Alors, il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, quand les hommes diront paix et sûreté, il n'y a pas de quoi craindre. Depuis le commencement, les choses sont comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Dit là. Alors, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs des... Rappelez-vous, Esaïe, que je vous avais dit, faites attention, comme une lourdeur, la douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte. Dites-moi une chose, si vous avez déjà eu des enfants, j'ai eu, n'est-ce pas, ma femme a eu, nous avons eu ensemble deux enfants, et j'ai accompagné, j'ai suivi bien, n'est-ce pas, la grossesse. N'est-ce pas vrai que parfois, il y a des faux signes du moment de l'arrivée de l'enfant? Alors, la maman, la femme commence à sentir, n'est-ce pas, les contractions et la douleur. Elle dit, c'est l'air. Alors, vous la prenez, vous oubliez même parfois, n'est-ce pas, la clé de la voiture. Vous courez, vous êtes là et en arrivant là, elle est là en attendant. Vous retournez à la maison tellement vous êtes, n'est-ce pas, là, un papa nouveau, sans expérience. Et voilà qui vous l'amenez. En arrivant à l'hôpital, le médecin est là et dit, madame, dites-moi, quelle est la fréquence de vos contractions et vos douleurs? Oh, chaque 10 minutes. Il dit, madame, retournez à la maison. Quand vous serez à chaque 2-3 minutes, dites-moi parce que je dois jouer mon golf, n'est-ce pas? Et je reviens quand c'est le moment. Alors, on revient à la maison encore, on passe la nuit toute une entière en attendant. N'est-ce pas vrai? Mais au fur et à mesure que nous arrivons au moment de l'accouchement, maman, qu'est-ce qui se passe? Quel est le mystère que Dieu utilise comme le langage pour nous faire comprendre la valeur de ce signe? Les fréquences commencent à être quoi? Ah, plus proche. Et non seulement cela, mais si je me rappelle bien de l'image de ma femme, la douleur devient aussi quoi? Plus intense, n'est-ce pas? Donc, voilà que la Bible utilise ce langage pour dire quoi? Qu'au fur et à mesure que nous nous approchons, n'est-ce pas, du retour du Christ, la fréquence des signes sera quoi? Plus proche. Et l'intensité aussi sera encore plus grande. Donc, voilà le langage. N'est-ce pas vrai que la fréquence de ces phénomènes maintenant sont plus proches les uns des autres? Prenez et lisez ce qui s'est passé à 300 ans, 200 ans. comment cela se multiplie maintenant. Presque à chaque jour maintenant, nous avons un tremblement de terre. Alors que dans le passé, quand il y avait, c'était un phénomène occasionnel. Et chaque fois, plus les dégâts, les résultats sont encore plus au plus grand, n'est-ce pas? Il y a un dégât chaque fois plus grand. Alors, voilà quelques-uns qui ont attendu le retour du Christ. D'abord, Enoch. Et nous lisons, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, septième déjà, a prophétisé en ces termes, voici le Seigneur est venu avec ses saintes troupes. Nous voyons aussi Job qui a la même chose. Pour ma part, je sais que celui qui m'a racheté est vivant et qu'il s'élèvera les derniers jours sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu. Celui que je contemplerai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. Qui encore? David, il dit, il vient notre Dieu, il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violence tempête. Il convoque le ciel en eau, il convoque aussi la terre pour le jugement de son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui sont faits, ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Et nous lisons encore Ésaïe, nous n'avons pas le temps aujourd'hui, mais prenez note, Ésaïe aussi, c'est l'un d'entre eux, et je saute ça. Et même Jésus, c'est lui qui a parlé, Jésus lui a répondu, tu le dis, de plus, je vous déclare, vous verrez désormais les fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant en venant sur les nuées du ciel. Donc, ils ont tous prêché, parlé, enseigné, prophétisé sur le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, très important, comment se fera-t-il son retour? Pourquoi est-il important? Mes amis, si Jésus disait qu'il allait venir avec une Peugeot 306, n'est-ce pas, de couleur jaune, il vient avec un Mercedes, il y a quelque chose qui ne cloche pas, n'est-ce pas? Ou s'il dit qu'il va rentrer par la porte de l'église, là du fond, il rentre ici par celle-là, il y a quelque chose qui ne cloche pas. C'est pour cela que c'est très important pour ne pas être séduit, comme nous l'avons dit au commencement, de connaître non seulement à propos de son retour, mais comment il se fera. Pourquoi? Parce que de plus en plus, il y a des gens qui enseignent des choses par rapport à l'arrivée, le retour du Christ qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Ce livre maintenant fait rage, Left Behind, laissé, n'est-ce pas, derrière. 40 millions de copies ont été vendues. Et voilà des pasteurs protestants qui commencent à enseigner des théologies qui, d'ailleurs, la réforme et nos chers Luther, Calvin, Zwingli, Wycliffe et d'autres n'ont jamais enseigné, alors qu'ils croyaient exactement comme nous sommes en train de prêcher. Et lorsque l'Église catholique a aperçu qu'ils étaient en train de perdre des millions de croyants pour l'Église réformée, pour les protestants, ils ont appelé deux de leurs théologiens pour essayer donc de contrecarrer ce que la réforme enseignait à propos de Daniel et Apocalypse. Et ces deux jésuites ont commencé avec ce que nous appelons dans la théologie le futurisme ou le prétérisme. Ils ont donc conçu cette théologie pour essayer d'exactement stopper les flux des chrétiens qui quittaient l'église catholique et allaient vers les églises protestantes. Donc ils sont, n'est-ce pas, conçu cette théologie étrange qui n'est pas biblique. Alors, pendant des centaines d'années, ces théologies ont été laissées à côté. Et voilà qu'à tout à coup, un homme prend ses livres, lit et commence à trouver intéressant. Et voilà une théologie maintenant qui malheureusement est revenue par les biais de l'Église protestante maintenant, qui en vérité, c'est un réflexe de la théologie catholique, pas biblique, de la tradition catholique, et qu'aujourd'hui, malheureusement, nos amis baptistes, méthodistes, presbytériens, de plus en plus, en croient à cela. Alors, nous voulons voir qu'est-ce que la Bible elle-même nous dit à propos. Alors, vous lisez en Apocalypse 1, 7, à propos du retour du Christ, le voici qui vient avec les nuées. Tous l'œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Alors la Bible, contrairement à ce qu'il dit, n'est-ce pas, les livres comme nous venons de montrer là-bas, ce livre, n'est-ce pas, qui a été écrit par Tim LaHaye, livre qui apprend que Christ va venir en secret pour les fidèles. Pas publiquement, pas comme la Bible vient de nous décrire que tout l'œil le verra, mais pour les fidèles, il va apparaître, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'ils disent, en interprétant d'une manière mauvaise la Bible, que l'un sera laissé et l'autre sera pris. Il dit donc que Christ va venir en secret, spirituellement, pour les gens, n'est-ce pas? Et ces gens vont disparaître avec eux. Donc, si un jour vous êtes en train de lire votre journal et votre femme est à côté et elle disparaît, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas, n'est-ce pas, un voleur ou du kidnapping. C'est plutôt, n'est-ce pas, l'enlèvement secret. Alors que la Bible ne connaît pas ce langage non plus, ces vérités. C'est clair, dit, voici qui, n'est-ce pas, il viendra avec les nuées et tout l'œil le verra. Il dit encore en Matthieu, là, 24, 30, 31, à la page 637, 638, alors le Seigneur, n'est-ce pas, le signe plutôt, alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux. Et encore, il dit, tout le peuple de la terre se lamenteront et se verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance, des gloires à la nuage. Tout l'œil le verra, pas secret, pas comme ils disent, n'est-ce pas? Et il enverra ses anges avec trompette retentissante, donc sera audible, visible, n'est-ce pas? Il continue, puissant, trompette, il dit là, n'est-ce pas? Les anges retentissantes, ils rassembleront ce qu'il a choisi. Donc, il y aura un rassemblement des gens, pas secrètement pour les uns et les autres. Et, aux quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Quelle différence entre la description biblique du retour du Christ et de ce que ces gens enseignent. Il dit encore en Actes 1, 9, 11, en parlant, n'est-ce pas, du moment où quand Christ rentrait au ciel, alors les disciples, ils étaient vraiment tous ensemble, très attristés. Christ partait, il était en train de monter au ciel, il a pris par les nuées. Et quand il regardait au ciel, voilà que des anges se mettent à côté et donnent ce message. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, pas en secret, il n'a pas monté en secret, mais il y a eu, à la Bible dit même, 1500, au moins 1500 témoins de son enlèvement. Il dit, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est-à-dire, c'est littéral. N'est-ce pas? De la manière littérale comme il est allé, il va revenir. Alors, les enfants de Dieu entendent une voix claire et mélodieuse qui leur dit, regardez en haut. Levant les yeux, ils voient les signes de la promesse, les noirs nuages qui couvrent les têtes, s'écartent. Et comme Étienne, il contemple le Fils de l'homme assis sur son trône, entouré de sa gloire. Alors, la gloire de Dieu. Nous voyons, selon la Bible, que son retour sera, numéro un, littéral, ce n'est pas symbolique, ce n'est pas spirituel, personnel, n'est-ce pas? Ce n'est pas un esprit visible, tout œil le verra, encore audible, la trompette, n'est-ce pas, du son. Nous voyons aussi, sera physique, ce n'est pas quelque chose qui ne sera pas vu, vitalisant pour son Église, pour tout un chacun, et glorieux avec tous ses anges. Alors, si nous croyons, comme dit la Bible, que chacun de nous, au moins, a un ange qui nous protège, n'est-ce pas? Et nous sommes plus de 6 milliards sur cette planète, il faut croire qu'il y a au moins combien des anges vont venir avec Christ? Au moins 6 milliards. Alors, pouvons-nous cacher 6 milliards d'anges? Impossible. Donc, c'est pour cela que Christ nous a mis en garde, comme nous l'avons déjà dit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Il faut que nous connaissions, que nous lisions notre parole pour la comprendre. Et que devons-nous faire donc devant ces messages de l'avènement, de l'éminence, de la proximité du retour du Christ? Alors, la Bible dit, Christ nous invite quand ces événements commenceront à se produire. Redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Ce n'est pas qu'il est en train de dire qu'il nous faut qu'on commence à marcher, n'est-ce pas comme ça, mais dans le sens qu'il faut être prêt. dans une dignité, dans une attente pour le retour du Christ. Et encore Matthieu 24, 44, à la page 638, nous dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Ah, mes amis, il faut que nous soyons prêts. Il ne dit pas, commencez à vous préparer. Mais il dit quoi? Soyez prêts. Il y a une différence entre aller vous préparer et être prêt. Il dit que nous devons être prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Et encore, le conseil de Dieu, restez donc en éveil. Une fois que nous sommes prêts, ne lâchons pas cette attente, mais priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout de l'un devant les fils de l'homme. Alors, où est-ce que Dieu nous amènera? Et là, j'achève avec ces deux versets de la Bible. D'abord, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le dernier livre de la Bible, parce qu'il va revenir, c'est intéressant, mais où est-ce qu'il va nous amener, n'est-ce pas? Où devons-nous aller ensemble avec lui? Nous avons déjà découvert pourquoi il vient, nous avons découvert la manière comme il est venu, nous avons découvert les prophéties de son retour, mais nous devons savoir maintenant où est-ce qu'il va nous amener avec lui. Donc, l'Apocalypse, chapitre 21 et 22 sont les deux derniers chapitres de la Bible. Les deux derniers chapitres, ou les deux premiers chapitres avec les troisièmes, n'est-ce pas, nous parlent sur le commencement de toutes choses. Comment Dieu a créé le monde parfait, il nous a mis là pour vivre une vie heureuse. C'est le paradis, le jardin de Dieu. Alors nous l'avons perdu dans le chapitre 3 de la Genèse. Et les deux derniers chapitres nous parlent comment nous allons récupérer ce que nous avons perdu par la grâce de Dieu. Tout ce qui est entre ces deux premiers chapitres et les deux derniers chapitres, c'est l'histoire d'amour de Dieu dans le salut ou cherchant à sauver l'homme. Donc nous lisons là dans le chapitre 21, verset 1 à 5, dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix plutôt qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Et voilà quel message merveilleux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort, qui nous avons parlé hier, n'est-ce pas, la bonne nouvelle, la mort elle-même n'existera plus. Dit-là, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Il dit, « Écris ces paroles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont certaines et véritables. » Ah, mes chers, ce n'est pas de l'utopie. C'est la réponse de Dieu à notre plus grand besoin. Ce sont les paroles, les mots d'espoir de Dieu pour tout un chacun. Dieu est allé préparer exactement une place là où le péché n'existera plus. Les mal, la douleur, la mort, rien. Mais la justice, n'est-ce pas? Le bonheur éternel sera là. Et dans le chapitre 22, versets 6, 7 et 20, j'ai fini en lisant. Il me dit, verset 6, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. C'est comme il insistait. Je sais qu'à la fin, il y aura des gens qui vont dire, ça c'est de l'utopie. Mais je vais insister encore auprès de vous. Ce sont paroles, quoi? Certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc Dieu a révélé cela à ses prophètes pour que vous et moi, nous puissions connaître. Et verset donc 20, c'est lui qui atteste ces choses, dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens. » Seigneur Jésus. Alors mes amis, je ne sais pas quelle est la raison par laquelle vous voulez demeurer, rester ici dans ce monde où la réalité, n'est-ce pas, nous échappe parfois même la compréhension. Mais la promesse de Dieu, elle est là. Elle nous dit que le Seigneur veut nous amener avec lui. Alors, ma question pour achever aujourd'hui. Voulez-vous y être? Nous allons avoir un message spécial ce soir. Et alors que les cartouches chantent cette musique, n'est-ce pas? J'aimerais que vous méditiez sur cette question. Voulez-vous être avec le Seigneur Jésus-Christ là où il est allé pour vous préparer une place? Aimeriez-vous être prêt pour son retour? Aimeriez-vous que le retour du Christ soit la bienheureuse espérance de votre cœur? Si cela est votre désir, à la fin, nous allons faire une prière spéciale demandant à Dieu de vous aider. Et nous allons demander que tout un chacun prenne aussi sa décision à propos de cela. Donc, nous invitons le quartier pour venir et nous présenter cette musique spéciale.
Pour moi, c'est pas. Alors, si ce soir vous aimeriez répondre à l'appel de Dieu, venez à moi. Vous aimeriez dire, pasteur, je veux aussi me préparer, je veux être prêt au retour du Christ. J'aimerais que vous priez aussi pour que ce message puisse être le commencement d'une nouvelle vie pour moi. J'aimerais que vous vous mettiez debout pour que nous puissions prier Dieu pour vous bénir. Si c'est votre désir que Dieu vous prépare pour son retour, que vous soyez prêt. Si vous voulez demander Dieu, Seigneur, je vais être prêt pour ton retour, je vous invite à vous mettre debout en signe de votre acceptation à l'appel de Dieu, alors que nous allons prier avec vous. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions, car dans ton immense amour, a été de ton plaisir nous annoncer que bientôt les mâles et ceux qui produisent les mâles auront faim. Et tu reviendras, ton retour imminent, pour préparer un endroit là où nous allons pouvoir habiter, vivre à jamais avec toi, où la douleur, le mal, le péché, la mort, la souffrance n'existera plus. Aide-nous, bon Dieu, à croire à tes paroles et aussi aide-nous à être prêts pour ton retour. Nous voulons te donner notre vie, notre cœur et nous voulons, bon Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, tu nous donnes la joie de recommencer notre vie d'un nouveau départ pour être donc à ton attente, à ton retour. Bénis tout un chacun, Seigneur, qui est venu ici aujourd'hui et que ta parole demeure dans leur cœur. Toutes ces grâces, nous te demandons au nom du Christ. Amen.